Paris minuit en temps universel.
Antoine Galen.
À la une, Donald Trump affirme que la Russie et l'Ukraine sont très proches d'un accord. Son émissaire Steve Witkoff a rencontré Vladimir Poutine ce vendredi. 3 heures de discussion qualifiées de constructives par le Kremlin. Les funérailles du pape François prévues à Rome ce samedi, 8 heures temps universel. Témoignage à suivre d'un prêtre sud-soudanais qu'il a rencontré. Dans ce journal également, en Chine, les énergies vertes dépassent pour la première fois les énergies thermiques. Mais Pékin reste très dépendant du charbon. Et puis au Népal, 10 ans après, le traumatisme est toujours présent. Le 25 avril 2015, un séisme de magnitude 7,8 avait ravagé le pays et tué près de 9000 personnes. Les contacts diplomatiques s'intensifient entre Moscou et Washington. Le président américain déclare que la Russie et l'Ukraine sont très proches d'un accord. Un peu plus tôt, son émissaire Steve Witkoff a rencontré Vladimir Poutine, mais la journée s'est achevée sans avancée officielle tangible. Les précisions d'Anissa El-Jabri à Moscou.
Les deux premières rencontres entre l'envoyé spécial de Donald Trump et le chef de l'État russe n'avaient donné lieu à aucune communication. La troisième à Saint-Pétersbourg avait duré 4h30 et donné lieu cette fois à quelques images. Seul signe visible du réchauffement continu entre Moscou et Washington. Cette fois, le rendez-vous a eu lieu au Kremlin et de brèves images en début d'après-midi ont montré Steve Witkoff et Vladimir Poutine assis à une table de négociation. Au même moment, le magazine Time rendait public une interview de Donald Trump où il multipliait encore les déclarations en ligne avec les positions du Kremlin, insistant notamment sur le fait qu'à ses yeux, je cite, « la Russie gardera la Crimée », allant même jusqu'à dire « et Zelensky comprend ça ». Aucune avancée visible concrète à l'issue des 3 heures d'échange à Moscou. Pourtant, le sherpa diplomatique du Kremlin a mentionné une seule nouveauté. Vladimir Poutine et Steve Witkoff ont évoqué de possibles négociations directes entre Moscou et Kiev, sans jamais nommer avec qui, question de taille, tant le pouvoir russe n'a jamais cesser de contester la légitimité de Volodymyr Zelensky. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Et de son côté, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé que son pays était prêt à un accord pour que les combats cessent. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des frappes russes ont fait 12 morts à Kiev. Volodymyr Zelensky a assuré que l'un des missiles tirés sur la capitale avait été produit en Corée du Nord. Il se méfiait du pouvoir, mais 50 chefs d'État seront présents pour ses funérailles. Hommage au pape François ce samedi matin à Rome. Près de 100 000 personnes sont attendues. Au Soudan du Sud, la mort du souverain pontife a entraîné une grande émotion. Ce vendredi 25 avril a été déclaré jour de deuil national et le président Salva Kiir a assisté à la messe célébrée à la cathédrale Sainte-Thérèse en sa mémoire. Cette même cathédrale où le pape avait rencontré les membres du clergé lors de sa visite à Djoumba en février 2023. RFI a rencontré John Loboka Maurice, le prêtre sud-soudanais qui a servi de traducteur au souverain pontife lors de cette visite.
Dès qu'il est descendu de l'avion, j'étais près de lui pour l'accueillir et aussi pour traduire les propos qu'il a adressés au président et que le président lui a adressés. Et lorsque nous sommes arrivés à la résidence du Vatican à Djouba, il m'a demandé où j'avais appris mon italien. Je lui ai dit que j'avais étudié à Rome, en Italie. Il avait l'air satisfait. J'étais heureux d'interagir avec lui. Il était très simple, très humble. Lorsqu'il s'est adressé aux diplomates, aux officiels du gouvernement et aux dirigeants de l'Église, il utilisait un langage lié aux questions de justice, de paix, de progrès, de partage des ressources, de construction d'une société qui soit équitable pour tous. Et puis, il y a eu aussi ces interactions avec les gens ordinaires, en particulier lorsqu'il a rencontré les personnes venues des camps de déplacés. Il a alors utilisé un langage très simple qui lui a permis de s'adresser au peuple. Mais plus que tout, c'est sa présence en elle-même qui a parlé. Tout le monde savait qu'il était faible, car sa visite avait été annulée auparavant. Et quand les gens l'ont vu arriver en fauteuil roulant, tout le monde a compris. Tout le monde a compris qu'il venait appeler à l'unité, à la paix, à la fin de la violence, et c'était précisément son message.
Propos recueillis par notre correspondante à Djouba, Florence Mieto. Une semaine pour ébaucher un accord de paix. La République démocratique du Congo et le Rwanda se sont engagés à respecter leur souveraineté respective. Une déclaration signée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, aux côtés de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Nouvelle étape pour mettre fin au conflit dans l'est de la RDC qui a fait des milliers de morts et dont le Rwanda est accusé d'être derrière le mouvement armé M23. Direction la Chine, Pékin annonce que les énergies vertes dépassent pour la première fois celles des installations thermiques. Mais la production de charbon chinois continue d'augmenter ces dernières années. Alors Pauline Glaise, que signifie réellement cette annonce ?
Que la capacité en énergie éolienne et solaire dépasse les capacités des centrales thermiques était inéluctable aux yeux de Laurie Milivirta, spécialiste du mix énergétique chinois au CREA. Depuis une paire d'années, la Chine a ajouté plus de 300 gigawatts de capacité par an, 10 fois plus que les États-Unis l'an dernier, et ce n'est pas fini.
Nous sommes dans la dernière année du 14e plan quinquennal. La dernière année, c'est toujours une année où beaucoup de projets prévus pour la période sont terminés et raccordés au réseau. Nous nous attendons donc à des ajouts d'énergie propre encore plus importants qu'au cours des deux dernières années.
En attendant, Laurie Milivirta nuance la portée du nouveau cap qui vient d'être franchi.
C'est largement symbolique, parce que ce qui compte vraiment, c'est la quantité d'électricité produite. Et la capacité solaire installée aboutit à une moindre quantité de gigawatt-heure que les installations au charbon ne le font habituellement. Donc le charbon a encore représenté près de 60% de la production d'électricité l'an dernier, quand les secteurs éoliens et solaires sont à 18%.
Et puis ce n'est pas parce que la Chine développe ses parcs solaires et éoliens à vitesse grand V que cette énergie vient remplacer le charbon. Pékin a lancé l'an dernier la construction de centrales au charbon d'une capacité de plus de 90 gigawatts.
Au Népal, c'était il y a 10 ans, le 25 avril 2015, un séisme de magnitude 7,8 plonge le pays dans le chaos. Le bilan humain est dramatique, près de 9000 morts, plus de 22000 blessés et 3 millions de déplacés. Des régions entièrement coupées du monde. Pour les Népalais, ce séisme reste un traumatisme national et la reconstruction a été longue, Heike Schmidt.
10 ans après, près de 90% des logements détruits ont été rebâtis. Des milliers d'écoles, des centres de santé et des temples ont été reconstruits sur les décombres. Mais à chaque nouvelle sécousse, et il y en a eu plus de 800 depuis 2015, de nombreux habitants du quartier historique de Bakaptou à Katmandou quittent leur maison en courant, terrifiés. Le séisme qui avait touché 8 millions de personnes à l'époque reste gravé dans les esprits. Personne n'a oublié les secours chaotiques, les querelles politiciennes et la bureaucratie qui ont entravé les efforts de reconstruction pendant de longs mois. Le tremblement de terre a aussi ébranlé l'économie avec des dégâts évalués à 7 milliards de dollars, des pertes qui ont précipité plus d'un demi-million de personnes sous le seuil de pauvreté, selon l'ONG Karuna Chechen. Aujourd'hui, les bâtiments de la capitale Katmandou résistent mieux au séisme grâce à des normes antisismiques plus sévères, mais dans les régions plus isolés, c'est loin d'être le cas.
En France, François Bayrou veut obliger les médecins français à exercer 2 jours par mois dans les déserts médicaux. Annonce du Premier ministre lors de son déplacement dans le Cantal, département rural du centre de la France. Cela concerne près de 30 millions de consultations par an, proposition rejetée par les syndicats de médecins. Face à cette colère, François Bayrou propose des mesures concernant la formation. L'idée est de permettre aux plus jeunes, au plus de jeunes possible d'accéder aux études de santé au plus près de leur territoire. Une mesure qui pourrait trouver un écho favorable auprès des internes, comme en témoignent Yves Niebel et Nicolas Virginie.
En soi, c'est pas une mauvaise idée, puisqu'il a été montré que les gens, après les études de médecine, s'ils veulent s'installer, ont tendance à retourner plus facilement dans leur lieu de vie d'origine. Donc autant avoir des multiples petites antennes pour essayer d'élargir le recrutement des nouveaux médecins à tout le territoire, et naturellement ils vont avoir plus envie d'aller dans des endroits où ils connaissent et dont ils ont leur famille, et comme ils ont leur attache territoriale, des fois ils ont même envie de se dire j'ai envie d'être médecin là-bas parce que c'est les gens que je connais, c'est là où j'ai envie d'être, c'est là où j'ai mon réseau et c'est là où j'ai envie d'aider.
Après, est-ce que tous les territoires peuvent accueillir des antennes, pourront assurer une formation, etc.? C'est la vraie question. Voilà. Je pense que pouvoir être formé partout et avoir accès à la médecine partout, ça permettrait en effet d'avoir des engagements un peu plus fréquents dans certaines zones. C'est une bonne idée, je pense qu'il y a une réflexion derrière.
Un propos recueilli par Laurence Théo, le Premier ministre toujours au cœur du scandale de l'établissement catholique de Notre-Dame de Bétharram. Sa fille a confirmé que son père avait bien rencontré en 1998 le juge chargé d'enquêter sur un viol à Bétharram pour évoquer l'affaire. Un épisode que le Premier ministre a d'abord nié avant de changer de version. Hélène Perlan précise toutefois que son père n'a pas cherché à couvrir les abus commis dans l'établissement. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. RFI, bientôt 2h10, à Paris, minuit 10, en temps universel.